Je vais vous parler de l'islam dans les Balkans, dans une dimension historique et puis aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans un débat sur ce que c'est que l'islam, mais par contre, l'autre terme de la proposition, les Balkans, ça, pour le coup, c'est un terme qui mérite quelques commentaires. Qu'est-ce que c'est que les Balkans? Où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que ça commence? On pourrait là-dessus gloser de manière très, très, très avancée. Le mot lui-même, c'est un mot d'origine turque. C'est la manière dont les Turcs ont appelé une montagne qui se trouve aujourd'hui entre la Bulgarie et la Serbie, que les Bulgares eux-mêmes appellent la vieille montagne, Stara Planina. Et par métonymie, ce terme de Balkan a été donné à un espace beaucoup plus vaste. Un espace beaucoup plus vaste, mais dont on ne connaît pas les limites. On parle parfois de péninsule balkanique, mais ce n'est pas une péninsule comme la péninsule ibérique, mettons, qui est fermée par la barrière des Pyrénées. Les Balkans, on ne sait pas exactement où ça s'arrête, où ça commence. Seconde petite remarque, cet usage large du terme de Balkan est relativement récent. Dans les usages occidentaux, ce terme de Balkan se généralise au cours du XIXe siècle. Alors, auparavant, comment est-ce qu'on appelait cet espace incertain? Ben, tout simplement, la Turquie d'Europe. La Turquie d'Europe parce que le marqueur identitaire le plus certain de cet espace balkanique aux frontières incertaines, c'est d'avoir fait partie, durant un temps plus ou moins long, de l'Empire ottoman. Alors, plus ou moins long, entendons-nous, il s'agit d'un siècle ou deux, enfin 2 siècles, bon poids quand même, pour certaines régions de Croatie, jusqu'à 6 siècles quand on parle de la Macédoine, du Kosovo ou de l'Albanie. 6 siècles, ce n'est pas tout à fait une petite occupation de quelques années. C'est quelque chose qui, bien évidemment, va très profondément marquer l'ensemble de l'histoire, mais aussi des usages sociaux. Dans toutes les langues des Balkans, par exemple, le grec, alors ces langues des Balkans, c'est des langues slaves comme le serbe, le bulgare, le croate, le macédonien, on pourrait aussi épiloguer sur les langues, mais peu importe, en tout cas les langues slaves, et puis il y a aussi le grec, l'albanais, qui n'est pas une langue slave. Mais toutes ces langues, quelles que soient leurs origines, ont pas mal, ont un stock de vocabulaire commun. Ce vocabulaire commun, bien sûr, il est d'origine turque. Et qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne la nourriture, le vêtement, la maison, concrètement toute la civilisation matérielle qui montre bien à quel point cette civilisation matérielle, commune aux Serbes, aux Grecs, aux Roumains ou aux Bulgares ou aux Albanais, est profondément marquée par ce passé, ce legs ottoman. Alors, premier point, mais là je voudrais essayer de mettre tout de suite une carte. Est-ce que alors qu'est-ce que vous voyez apparaître là? Est-ce que vous voyez apparaître
Un
du
micro. Blanc pour l'instant.
blanc? Est-ce que vous voyez apparaître ma carte?
Pas encore. C'est
Non.
blanc.
C'est blanc.
Alors là, il y a un truc bizarre qui ne dé...
Sinon, tu peux me l'envoyer si tu veux, je la repartage.
Oui, alors sinon, oui, je peux faire ça aussi.
Bon, enfin, normalement, tu dois.
Oui. Normalement, ça devrait passer tout seul, oui, c'est clair. Je vais faire ce que je vais faire, je vais attraper les deux fichiers et les faire passer. Ah, scrogneugneu. Excusez-moi, hein. C'est vraiment un truc bizarre. Bon, je t'envoie les deux documents. Les deux cartes que je vous ai dit. Alors, en tout cas, pour revenir sur cette phase aux frontières donc incertaines, où est-ce que l'on trouve une présence de l'islam? Bien évidemment, le premier pays qui vient je pense, à l'esprit de tout le monde, c'est la Bosnie-Herzégovine. Alors, la Bosnie-Herzégovine, pour donner quelques points de repère. C'est aujourd'hui un pays qui compte au maximum 3 millions d'habitants. On attend un recensement qui devrait avoir lieu bientôt. Enfin, normalement en 2021, mais il n'est pas certain, vu les conditions sanitaires, que ce recensement puisse avoir lieu. 3 millions d'habitants, donc au grand maximum, dont à peu près 50% de musulmans, c'est-à-dire 1,5 million. Alors, ce terme de musulmans, là aussi, on y reviendra. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Avant de rentrer plus avant dans cette définition, je l'utilise pour l'instant au sens d'une personne issue de la tradition musulmane, que cette personne soit croyante, pratiquante ou pas. Mais dans les Balkans, quelqu'un qui est issu d'une famille de tradition musulmane se considère comme musulman, quitte par exemple à être athée. Il y a le sentiment d'un héritage culturel religieux qui va bien au-delà de la foi personnelle de chacun. Je reviendrai sur ce point, mais en tout cas, quand j'emploie ce terme de musulman, comprenez bien que c'est dans ce sens très large, qui ne signifie pas forcément que ces gens sont tous croyants ou pratiquants. Donc 1,5 million de musulmans en Bosnie-Herzégovine. Autre bloc qui vient à l'esprit de tout le monde albanais. Alors là, on a d'une part la République d'Albanie, là aussi 3 millions de personnes au maximum, 3 millions de personnes dont, d'après le recensement qui lui a été organisé en 2011, où la question de l'appartenance confessionnelle était posée, à peu près 70% de musulmans. Donc 2 millions, voilà, à peu près 2 millions de personnes. Les 30 autres % de la population d'Albanie étant chrétiens, à peu près pour moitié catholiques et pour moitié orthodoxes. L'Albanie est donc, ne l'oublions pas, un pays très composite du point de vue confessionnel. Mais à peu près 2 millions de personnes. Dans le cas du Kosovo, là, le recensement de 2011 n'a été organisé que de manière partielle et très… Voilà, c'est là que la carte arrive, c'est parfait. De manière partielle et très contestée. On peut considérer que le Kosovo a 1,7 million d'habitants, dont 100 000 Serbes orthodoxes, à peu près 1,5 million Albanais, dont une centaine de milliers sont catholiques, donc à peu près, on va dire, 1,5 million de musulmans, là encore, au Kosovo. On est donc à 3,5 millions, on va rajouter la Macédoine. La Macédoine, alors là, il n'y a pas eu de recensement depuis 1991 en Macédoine, en tout cas de recensement accepté par tout le monde. Donc, on dit que le pays compte 2 millions d'habitants, ce qui est certainement surévalué, mais un quart de sa population est albanaise, musulmane, parce qu'il y a, alors il y a pour le coup, il y a une toute petite microscopique communauté albanaise catholique en Macédoine qui a donné une des saintes les plus connues du XXe siècle, Mère Teresa de Calcutta, est née dans une famille catholique albanaise de Skopje, mais la communauté est très très petite, donc c'est 500 000 Albanais de Macédoine, en tout cas ce quart de la population, presque entièrement musulman, auquel il faut ajouter d'autres communautés nationales, des Roms, des Turcs, qui sont également musulmans. Donc on va dire un tiers de la population, peut-être 600 000 personnes, sont musulmanes. Donc on arrive, si on ajoute la Bosnie, si on additionne la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine, 3,5 millions, 5 millions, on est déjà à 5,6 millions. Ce n'est pas tout. Dans le cas du Monténégro, par exemple, qui est un petit pays de 600 000 habitants, un tiers de la population est musulmane, 200 000 personnes. Alors, c'est des musulmans qui peuvent être soit des Bosniaques de langue slave, parlant le serbo-croate, si vous voulez, soit des Albanais. Il y a une petite communauté albanaise au Monténégro qui est à peu près pour moitié catholique et pour moitié musulmane. Il faudrait aussi rajouter les musulmans de Serbie. Alors, les musulmans de Serbie, c'est dans la région du sud-est du pays, des Bosniaques. De l'autre côté, ça va plutôt être des Albanais. En tout cas, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, là encore. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la Bulgarie. La Bulgarie, où 1 million au moins des 6 à 7 millions d'habitants actuels du pays sont musulmans. Alors, il y a des Roms qui sont musulmans en Bulgarie, sachant que d'autres Roms sont orthodoxes. Il y a des Turcs. Et puis, il y a ce que l'on appelle aussi les Pomaks. Alors, les Pomaks, c'est un groupe ethnique un peu particulier qui a des cousins dans toute la région. C'est des populations montagnardes, slaves, musulmanes. On les trouve en Bulgarie, également en Grèce. En Macédoine, leurs cousins s'appellent les Torbèches ou Macédoniens musulmans. En tout cas, au moins 1 200 000 musulmans en Bulgarie. En Roumanie, la présence musulmane est beaucoup plus limitée. C'est quelques communautés sur le littoral, essentiellement dans la région de Constanța. Par contre, reste un morceau non négligeable qui est la Grèce. Non négligeable parce qu'il y a à la fois des communautés musulmanes issues de l'immigration intra-régionale. Par exemple, beaucoup d'Albanais se sont installés en Grèce depuis le début des années 90. Mais surtout, il y a une minorité, c'est la seule minorité reconnue en Grèce, puisque la Grèce a un modèle d'État-nation très centralisé sur le modèle français, disons qu'il ne reconnaît pas de minorité, de peuple minoritaire. La seule minorité légalement reconnue en Grèce, c'est dans la région frontalière avec la Turquie, l'extrémité orientale du pays, ce que l'on appelle la Thrace occidentale, où là vous avez une communauté dite musulmane, c'est son nom, dont le statut est garanti par les accords bilatéraux de Lausanne, datant de 1923, qui ont mis fin à la guerre gréco-turque. Ce qui veut dire que cette communauté est régie selon un statut très particulier. C'est pour le coup le seul territoire de l'Union européenne où le droit religieux, le droit chariatique, s'applique toujours dans certains domaines, notamment le droit de l'héritage. Et la Grèce considère que le traité bilatéral de Lausanne l'emporte sur le droit communautaire. Donc c'est quelque chose que l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne n'a pas remis en cause. Mais il y a donc, par exemple, des procédures d'héritage qui sont inégalitaires et défavorables aux femmes, parce qu'il y a d'autres dispositions. L'idée de cette minorité musulmane, alors, c'est son nom, hein, encore une fois, elle regroupe des gens qui peuvent être aussi bien turcophones que slavophones. Il y a des Roms également, mais l'appartenance confessionnelle est plus importante que l'appartenance culturelle ou nationale, ou que les langues que les gens pratiquent. Ils sont d'abord considérés comme des musulmans, et je dirais que tout au long du XXe siècle, la Grèce et la Turquie se sont entendues pour organiser un sous-développement chronique de cette région. Par exemple, l'enseignement est toujours assuré par la Turquie. Hein, les compétences éducatives sont déléguées à la Turquie, qui est l'État de tutelle de cette communauté, ce qui veut dire que les gamins étudient avec des manuels qui ont 50 ans d'âge encore aujourd'hui. Enfin, c'est des conditions qui ont un tout petit peu changé durant le gouvernement Syriza, qui avait essayé de faire un petit peu évoluer les choses, mais la situation de la minorité demeure très dégradée. Alors, si on résume tout ça, les musulmans dans les Balkans, combien de divisions, pour paraphraser Staline parlant du pape? On arrive à peu près à 8 millions de personnes, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas négligeable. J'ai aussi pris un malin plaisir à, pas par esprit vicieux, mais pour vous montrer la complexité des choses, à vous détailler combien les appartenances nationales et confessionnelles ne coïncidaient pas avec des Albanais, tantôt musulmans, tantôt catholiques, des gens qui sont slaves, qui ne sont pas slaves. J'ai pris un malin plaisir à le faire pour d'entrée de jeu, que vous évitiez comment dire, les simplifications. Il y a une multiplicité de référents identitaires qui peuvent être linguistiques, historiques, nationaux, qui sont aussi confessionnels. Mais il n'y a pas, par exemple, de peuple musulman dans les Balkans. On considère fréquemment en France, je pense, si on pose la question à beaucoup de gens, ils répondraient comme ça, que les Albanais sont musulmans. Ben oui, c'est pas tout à fait vrai. J'ai cité Mère Teresa, et puis en Albanie même, un tiers de la population est de tradition chrétienne. Donc il faut vraiment éviter les simplifications. Ça fait partie des charmes de la région. Alors, seconde question, et ça sera mon second grand point, c'est peut-être 8 millions de musulmans. Comment le sont-ils devenus? C'est la question de la conversion. Alors, bien évidemment, la conversion, elle est liée à la conquête ottomane des Balkans, une conquête qui s'opère entre le milieu du XIVe siècle et, disons, la fin du XVe siècle. C'est un processus d'un siècle et demi, de 250 ans à peu près, qui va permettre à l'Empire ottoman de contrôler l'ensemble de ce que l'on appelle aujourd'hui les Balkans. Peut-être, Xavier, si tu pouvais mettre l'autre carte que je t'ai envoyée, ça serait pas mal, qui est une carte de l'Empire ottoman, justement. Alors, Bien sûr, certains vous diront que l'islam était présent dans les Balkans avant même la conquête, notamment des missionnaires derviches, mystiques qui sillonnaient la péninsule. C'est très probable, mais en tout cas, le gros des conversions coïncide à la conquête. Un petit point sur la géographie ottomane. Il faut bien comprendre que les Balkans sont au centre de l'Empire ottoman. La capitale des Balkans, c'est encore aujourd'hui, c'est Istanbul, qui est à cheval sur les deux rives, sur les deux continents. Mais Istanbul, bien évidemment, c'est le cœur, toujours aujourd'hui, des Balkans, la capitale naturelle vers laquelle tout le monde pense à un moment ou l'autre dans tous les pays de la région. L'influence géopolitique de la Turquie étant d'ailleurs aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'a jamais été depuis bien longtemps. Des régions comme l'actuelle Grèce, la Serbie, Sarajevo, Belgrade sont au cœur de l'Empire. Les marges, les périphéries de l'Empire ottoman, ben regardez, c'est l'Arabie, c'est le Maghreb. Là, on est très très loin d'Istanbul. Si vous étiez au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, un fonctionnaire ottoman un petit peu arriviste, en fait, désireux de faire une belle carrière, être nommé à Sarajevo ou à Belgrade, c'est un très bon poste, près du centre de l'Empire, dans les provinces riches, dans les provinces centrales. Si vous étiez nommé à Alger ou au fin fond, je ne sais pas quoi, de l'Irak, c'était beaucoup moins intéressant. Vous étiez vraiment renvoyé dans des confins compliqués. Il faut bien comprendre cela. On a tendance à voir, on a un tropisme, je dirais, occidental-européen qui consiste à voir l'Empire ottoman comme quelque chose d'extérieur. Mais renversons les choses. Du point de vue ottoman, les Balkans, c'est le cœur de l'Empire. Et la perte des provinces balkaniques, qui va s'échelonner au long du XIXe siècle, marque véritablement la fin de l'Empire. Perdre l'Algérie ou l'Arabie, c'était beaucoup moins grave que perdre la Serbie ou la Bulgarie. C'était véritablement le cœur de l'Empire. Alors, autre question, comment est-ce que cette conversion, comment ces processus de conversion vont-ils s'opérer? Là, il n'y a pas de modèle universel. Pour commencer, il faut rappeler que jamais, à aucun moment dans toute l'histoire de l'Empire ottoman, il n'y a eu de politique de conversion forcée. Conformément à la tradition de l'islam, qui respecte et protège les religions dites du livre, c'est-à-dire les religions monothéistes révélées, le judaïsme et le christianisme dans ses différentes formes, l'Empire ottoman n'a jamais essayé de convertir de force les populations non musulmanes qu'ils trouvaient aussi bien en Anatolie, pour le coup, Byzance était tout de même une ville majoritairement chrétienne quand les Ottomans l'ont conquise en 1453, et Istanbul est restée une ville majoritairement chrétienne jusqu'au XXe siècle. Il ne faut jamais l'oublier, durant toute la période ottomane, la capitale de l'Empire était majoritairement chrétienne. De même, dans les Balkans, il n'y a jamais eu de conversion forcée, contrainte des populations. Par contre, il pouvait y avoir un intérêt à se convertir. Alors, un intérêt multiple, un intérêt fiscal éventuellement, ou un intérêt professionnel pour faire justement une carrière dans l'État ottoman. Puisque cet État ottoman est un État théocratique, où le sultan est à la fois le chef politique de l'État, mais il est également commandeur des croyants, c'est-à-dire calife. Il est l'autorité religieuse suprême. Ces conversions ont pris différentes formes. Je vais vous donner un exemple de ce qui est parfois évoqué comme le biais permettant des conversions forcées. C'est une pratique que l'on appelait le defshirme. Le defshirme, ça consistait à razzier des jeunes gens, beaux et brillants, pour en faire des fonctionnaires ottomans. Alors, concrètement, le defshirme, ça s'est pratiqué dans toutes les provinces ottomanes. Vous pouviez razzier des beaux gaillards, costauds, solides, qui allaient devenir de très bons janissaires, de très bons soldats, ou bien au contraire, des jeunes types qui avaient plutôt un profil intelligent, c'était le petit dernier qui était vraiment brillant, et qui lui allait faire une carrière dans la troisième cour du palais, la cour d'Anderun, du palais de Topkapı, la cour des pages impériaux, qui était grosso modo l'ENA ottoman, où ces jeunes gens allaient se former et accéder aux plus belles carrières de l'Empire. Quasiment tous les grands vizirs de la grande époque ottomane sont issus de cette tradition-là. Et alors, on parle d'enfants radiés. C'est vrai, bien sûr, dans certains cas. Dans beaucoup d'autres cas, c'était aussi les familles aristocratiques des provinces, des familles très chrétiennes, qui allaient donner leurs enfants, qui allaient sur les, mettons, sur les trois garçons de la famille, allaient on en donner un à l'empire, parce que lui va faire une belle carrière, et ça sera bien évidemment très avantageux pour la famille. Je vais prendre un exemple qui est très connu, qui se passe à la fin du XVIe siècle en Bosnie-Orientale, où vous avez une grande famille aristocratique orthodoxe serbe, dont un des membres va être éduqué à la cour du sultan et va devenir grand vizir, tandis que son frère ou son cousin, on a un petit doute, va restaurer l'église orthodoxe serbe, va être le premier patriarche du patriarcat serbe restauré au XVIe siècle en 1576. Alors, dans cette grande famille aristocratique serbe, il y avait bien évidemment une stratégie familiale. Quand vous avez un frère ou un cousin, on a mis un petit doute là-dessus, qui est grand vizir et l'autre qui est chef de l'église, il est évident qu'il y a une stratégie familiale. Après, quelles étaient les convictions personnelles de celui qui est devenu patriarche? On peut penser qu'il était bon chrétien. Celui qui est devenu grand vizir, est-ce qu'il continue à prier Dieu, la Vierge et ses saints en cachette? Il avait fait profession de foi musulmane pour être grand vizir, bien sûr. Est-ce qu'il restait en cachette, croyant chrétien? Peut-être, on n'en sait rien. Il n'y a aucune preuve, aucun document qui puisse attester ou contester quoi que ce soit à la matière. Là, c'est le secret qu'il a emporté dans sa tombe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a bien évidemment la stratégie d'une grande famille aristocratique par rapport à cet enjeu de la conversion. Si l'on regarde à une échelle un petit peu plus large, on constate grosso modo trois cas de figure. Premier cas de figure, le modèle bosnien. En Bosnie-Herzégovine, vous avez des conversions massives dès les premières années ou les premières décennies de la conquête. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Pourquoi est-ce que les Bosniens se sont convertis en masse de la sorte? L'aristocratie s'est convertie en premier. Et quand l'aristocratie se convertit, bien évidemment, le peuple suit. Je ne sais que décaler le problème. Pourquoi l'aristocratie s'est-elle convertie? Là, pour le coup, la Bosnie-Herzégovine, elle est sur la ligne de partage entre la ligne de partage de l'Empire romain, entre Empire romain d'Orient, Empire romain d'Occident en 395, et puis une ligne de partage qui a été réactualisée par la ligne de partage entre chrétienté d'Occident et chrétienté d'Orient. La Bosnie-Herzégovine est toujours un pays où vous avez non seulement des musulmans, mais aussi des catholiques et des orthodoxes. Et puis, au Moyen Âge, la Bosnie-Herzégovine était surtout un pays qui se caractérisait par son très très faible encadrement ecclésial. Grosso modo, vous aviez des évêchés dans le sud du pays, mais les montagnes de l'intérieur de la Bosnie étaient peu encadrées d'un point de vue religieux. Alors, vous aviez les rois, les souverains de Bosnie, les rois de Vrtoco, qui eux-mêmes ont un petit peu coqueté tant avec l'orthodoxie qu'avec le catholicisme, selon les périodes. Au XIIe siècle est même apparu ce que l'on a appelé une église bosniaque. Alors, cette église bosniaque, on a voulu la rapprocher des courants bogomiles, qui naissent a priori dans les marges de l'Empire ottoman et en Bulgarie, et puis des cathares du Languedoc. Alors, certains ont même imaginé, c'était des théories qui étaient très en vogue dans les années 70 du siècle dernier, des liens directs entre Église bosniaque, cathare, des liens structurels, il y aurait eu des émissaires qui auraient été d'un. Bon, ça aujourd'hui, les historiens n'y croient pas trop. Fondamentalement, tous ces courants bogomiles essaient de répondre à une question qui est compliquée. C'est si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a le mal sur Terre? Bon, ça, c'est la question universelle. Et le type de réponse, l'idée qu'il y a deux dieux ou qu'il y a un principe positif, un principe négatif, voilà, c'est des réponses qui vont apparaître de manière, je dirais, spontanée dans l'ensemble non pas seulement du monde chrétien, mais du monde des religions monothéistes révélées, des réponses relativement similaires. Et après, ce sont pour le coup les inquisiteurs catholiques qui vont créer un objet cohérent qui serait l'hérésie. Mais si vous voulez, là, pour le coup, il y a des travaux d'historiens qui sont très intéressants, qui montrent bien comment les inquisiteurs du XIIIe, XIVe siècle fonctionnaient fondamentalement sur le même modèle que les procureurs staliniens dans les années 30 à Moscou, où il fallait créer quelque chose de cohérent. Donc, mettons des ennemis trotskistes ou que sais-je. Là, de la même manière, il fallait créer des hérétiques en imaginant des connexions entre des groupes qui n'en avaient pas et en créant une cohérence intellectuelle qui n'était nullement posée. Alors, cette église bosniaque, on a donc voulu la rattacher à ces courants européens. C'est plutôt tout simplement l'église bosniaque, c'est plutôt la réalité d'un sous-encadrement ecclésiastique, de prêtres qui sont un peu laissés tout seuls dans la montagne, de communautés qui essaient de fabriquer elles-mêmes leur théologie. Et du coup, quand l'islam arrive, ces communautés sous-encadrées vont assez facilement se dire ben, pourquoi pas rejoindre l'islam. C'est finalement entre ces catholiques et ces orthodoxes, on ne sait pas trop bien de quel côté se diriger. L'islam est une réponse assez simple. Pour le coup, dans les reconstructions historiographiques, l'historiographie yougoslave titiste, communiste, insistait beaucoup, elle aussi, comme les nationalistes bosniaques aujourd'hui, sur cette église bosniaque. Ça permettait de présenter les bosniaques comme d'éternels résistants, qui avaient résisté au catholicisme, résisté à l'orthodoxie, résisté. Il y a eu une croisade prêchée par le pape pour convertir les hérétiques bosniaques. Donc, ils auraient toujours été résistants, ce qui, bien évidemment, flattait l'idée yougoslave de peuple résistant. En réalité, la Bosnie, elle est juste à la croisée de ces influences diverses. C'est un pays de montagne où l'encadrement religieux était faible, et du coup, l'Empire ottoman s'est imposé naturellement. Et la conversion est apparue comme une option finalement plutôt rassurante pour l'aristocratie qui est entrée derrière elle, la population. Donc on a ce cas bosniaque qui est celui d'une conversion massive et rapide. Alors pas totale néanmoins, puisqu'encore aujourd'hui c'est à peu près 50% de la population. Autre cas de figure, bah, les gens qui ne vont pas se convertir, notamment en Bosnie-Herzégovine, mais également en Serbie, c'est autour des communautés religieuses, là où elles sont mieux structurées, que des identités vont se coaguler et se définir en opposition à la conversion. Être croate, c'est être de tradition catholique. On peut pas, si on est croate, on ne peut pas ne pas être catholique. Éventuellement, on n'est pas du tout pratiquant, on est éventuellement athée. Mais être croate veut dire qu'on s'inscrit dans cette tradition catholique, dans les montagnes de Bosnie. Cette identité croate-catholique, elle a été portée à l'époque ottomane dans les régions, dans les villes où les communautés franciscaines étaient très développées. C'est vraiment les franciscains qui ont défendu, conservé une identité catholique et donc croate. Dans le cas du monde orthodoxe, c'était un petit peu la même chose avec des églises, alors l'église orthodoxe serbe que j'évoquais, mais aussi l'église orthodoxe grecque et d'autres. Sachant que contrairement au monde catholique, dans le monde orthodoxe, il n'y a pas une église unique, comme celle l'église catholique, apostolique et romaine. Il y a des églises qui sont toutes indépendantes, qui sont unies entre elles par le lien de la communion, mais qui sont indépendantes, qui n'ont pas forcément une base nationale au départ, qui ont plutôt une base géographique. Ça, c'est le propre de l'orthodoxie. Ces églises géographiques ont acquis progressivement, notamment au cours des deux, trois derniers siècles, une dimension nationale qu'elle n'avait pas au départ. Mais en tout cas, il est évident que dans les campagnes, mettons, de l'actuelle Serbie, être fidèle de l'Église orthodoxe, écouter les conseils du pape, est devenu le ferment structurelle d'une identité serbe qui s'est développée au cours de cette période ottomane. Idem pour l'identité grecque. Dans le cas du monde grec, large, hein, de la Grèce continentale, mais je pense aussi à la Crète ou à Chypre, vous aviez encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 30-40 ans, pardon, je pense notamment à la Crète, des communautés villageoises où les gens parlaient turc. Mais comme ils étaient orthodoxes, ils se considéraient comme grecs. Parce que l'appartenance confessionnel et ce qui est déterminant dans l'identité, beaucoup plus que la langue que l'on peut parler. Donc, second modèle, des communautés religieuses chrétiennes solidement établies qui vont résister résister à la conversion et devenir au contraire le serment d'identité particulière. Et puis, troisième cas de figure, le cas de conversion progressive. C'est notamment le cas du monde albanais où, contrairement à la Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas conversion systématique et rapide. Les processus de conversion dans le monde albanais, ça commence dès la conquête, dès le XVe siècle, et j'ai presque envie de dire que ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas eu, dès le départ, cet impulse donné par une aristocratie relativement homogène qui choisit de se convertir, que ce monde albanais est multiple, complexe, avec des réalités très différentes. Les îles, par exemple, étaient beaucoup plus administrées par l'Empire ottoman et les îles sont toujours, durant toute cette période ottomane, ont été des vecteurs d'ottomanisation et d'islamisation. Les grandes villes comme Tirana, Shkodër ou d'autres, Ohrid, ont toujours été des grandes villes majoritairement musulmanes. Dans les campagnes, notamment les zones de montagne, les phénomènes étaient bien sûr beaucoup plus diffus, de même que le pouvoir impérial s'exerçait de manière moins directe. Pour que vous compreniez ces phénomènes, je vais prendre un exemple un peu particulier, qui est ce qu'on appelle le crypto-catholicisme. Alors, les crypto-catholiques, les catholiques cachés, c'est des communautés très importantes et encore aujourd'hui existantes, notamment au Kosovo. Il y a plusieurs cas de figure, mais le cas de figure le plus fréquent, c'est des villages où les hommes sont musulmans et les femmes sont catholiques. Alors, c'est un peu bizarre, vous allez me dire, comme situation. Comment est-ce que ça peut marcher ? Ça marche de manière très simple. Les hommes sont musulmans, donc ils sont soumis à la fiscalité des musulmans. Ils peuvent acheter des terres en tant que musulmans, être propriétaires terriens en tant que musulmans. Bien évidemment, les femmes sont des mineurs, elles n'ont pas à être propriétaires. Donc, les femmes ont la mission de transmettre la foi aux enfants. Sachant que les petits garçons seront bien sûr circoncis, seront officiellement musulmans, tout en ayant acquis dans l'intimité familiale la foi chrétienne transmise par leur mère. Ce modèle de crypto-catholicisme montre bien comment des communautés, pour le coup plutôt villageoises, savaient s'accommoder des différentes règles et en réalité développaient des stratégies soit de survie, soit de progression sociale dans lesquelles l'appartenance confessionnelle était un facteur important. Alors, lié à ce crypto-catholicisme, il y a le seul cas de répression religieuse connu dans toute l'histoire ottomane des Balkans, c'est à la fin des années 1840. En 1844, l'Empire ottoman prend des grandes réformes, ce qu'on appelle les tanzimates, et dit notamment que la question confessionnelle est plus importante. Maintenant, tous les sujets ont les mêmes droits, qu'ils soient musulmans, catholiques, juifs ou autres. Du coup, ces crypto-catholiques du Kosovo se disent « Ah bah oui, dans ce compte-là, on n'a qu'à dire que nous aussi, on est catholiques. » Ah oui, sauf que là, ça ne marche pas comme ça, parce qu'officiellement, ils étaient musulmans. Donc, ils rentrent dans un autre cas de figure qui est l'apostasie, qui, naturellement, est punissable. Donc, ils ont été envoyés en prison, déportés. Bon, leur histoire a fini par s'arranger au bout de quelques années, mais enfin, ils en ont quand même un petit peu bavé, ces gens de quelques villages du Kosovo. Cette tradition du crypto-catholicisme, elle a concerné pas mal de gens, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont un état civil musulman, mais qui sont prêtres catholiques, parce qu'ils sont issus de ces communautés-là. Ce qui montre bien aussi combien les identités ont la vie longue dans les Balkans. Dernier mot sur le fonctionnement de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman ne reconnaissait pas de catégorie nationale. Il n'y avait pas de corps intermédiaire qui aurait représenté les Serbes, les Bulgares, les Grecs, les Turcs ou que sais-je. Par contre, dans l'Empire ottoman, vous aviez deux types de corps intermédiaires. Vous aviez des statuts sociaux. Alors, vous étiez paysan, vous étiez soldat, ou bien vous étiez membre des corporations d'artisans ou de marchands, ce qu'on appelle les esnaf, qui structuraient le tissu urbain. Ça, c'est un point très important qu'il ne faut jamais oublier, l'appartenance sociale ou professionnelle. Et puis, l'autre appartenance, c'était l'appartenance confessionnelle. Vous étiez soit musulman, soit membre d'une communauté protégée par le sultan, lorsque l'on appelle, en turc ottoman, le millet, qui est la communauté protégée. Il y avait le Yahoudi millet, qui était le millet des juifs, et puis le millet des roums. Alors les roums, c'est des romains en réalité, les chrétiens orthodoxes. le chef de la du millet des Roumes était le patriarche œcuménique de Constantinople, qui a été dans la hiérarchie ottomane un des principaux fonctionnaires. Il était pacha à trois queues de cheval, donc ça faisait de lui le quatrième ou le cinquième personnage de l'État ottoman, si vous voulez, si on peut prendre des comparaisons un petit peu anachroniques, mais qui font sens tout de même. Ce patriarche était installé dans le quartier du Fanar, sur la Corne d'Or. C'est toujours là que se trouve le siège du patriarcat œcuménique de Constantinople, qui existe toujours, bien sûr, et qui est dirigé par le patriarche Bartholomée Ier. Mais vous aviez aussi des millettes spécifiques, par exemple, pour le patriarcat serbe, qui formait une communauté reconnue en tant que telle. Alors, ces communautés religieuses, confessionnelles, jouait un rôle très important dans la vie quotidienne. Notamment, la justice était rendue à l'intérieur de la communauté. Vous aviez concrètement, vous aviez un litige concernant deux juifs. C'était les règles de la communauté, du millet juif, qui réglait ce litige. Vous aviez un litige concernant deux chrétiens serbes, orthodoxes. C'était au sein du millet orthodoxe serbe que le conflit se réglait. Les choses ne changeaient que si vous aviez un conflit opposant, mettons, un serbe orthodoxe à un musulman, où là, le droit musulman, le droit chariatique l'emportait, puisque l'État était tout de même musulman. Cela veut dire, j'insiste sur ce point, parce que ça explique ce que je disais tout à l'heure, être serbe, c'est être issu de cette tradition-là, que vous soyez croyant ou non, que vous soyez pratiquant ou non. Et il en va de même, bien évidemment, pour les musulmans. Être musulman, c'est être issu de cette tradition-là qui fait que vous ne pouvez pas être, mettons, orthodoxe parce que vos ancêtres ne l'étaient pas. Alors, on peut bien sûr trouver quelques cas tout à fait individuels de conversion, c'est extrêmement rare. Vous avez par contre beaucoup de gens qui ne vont pas être croyants ou même pas pratiquants. Vous avez des gens qui vont vous dire, c'est une formule qu'on entend encore aujourd'hui très facilement dans l'ancienne Yougoslavie, je suis musulman mais athée. Ça veut dire que je suis issu de cette tradition musulmane. Après, voilà, je n'ai pas personnellement de croyance religieuse. Tout dernier point sur cette structuration du fait religieux, quid de ce que l'on appelle les mariages mixtes? Vous avez peut-être ça en tête, on a beaucoup parlé, notamment dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, de l'importance des mariages mixtes. Alors, la raison m'a toujours fait un petit peu sourire. Aujourd'hui, il y a quelques pays de la région qui commencent à admettre le mariage entre personnes du même sexe, mais a priori, on est quand même de toute façon sur la perspective d'un mariage entre personnes de sexe différent. La question, c'est, le mariage est-il possible entre personnes de religions différentes? Et c'est naturellement la chose la plus difficile. Alors, c'était très valorisé à l'époque socialiste, en Yougoslavie, mais aussi en Bulgarie ou en Albanie, parce que c'était une manière de montrer son modernisme, son adhésion au nouvel État commun et son détachement par rapport au phénomène religieux. Ces mariages mixtes étaient plus fréquents dans les villes que dans les régions rurales. Il y a une corrélation, disons, entre l'indice de développement économique, culturel et l'importance de ces mariages mixtes. Ceci étant, ils sont toujours restés très limités, même dans la Yougoslavie de Tito, et ils sont aujourd'hui beaucoup plus limités qu'ils ne l'étaient à la fin du XXe siècle. Pour une raison simple, c'est que si vous avez un mariage entre deux personnes de confession différente, vous le faites selon quel rite ? La question est aussi bête que cela. Alors, a priori, dans les sociétés des Balkans, qui sont toutes des sociétés, bien sûr, patriarcales, ça va être la religion du mari qui va l'emporter. Mais du coup, si vous avez une fille, vous n'avez pas envie qu'elle quitte votre communauté. Puisque, que vous soyez chrétien, musulman, peu importe, si votre fille va se marier avec quelqu'un d'une autre communauté, vous allez la donner à cette communauté. Ce que, bien évidemment, aucune famille n'aura envie de faire. Alors, ça fait partie des folklores balkaniques. Il y a 50 000 histoires de Roméo et Juliette dans tous les pays de la région qui ont transgressé à toutes les époques ottomanes cette barrière. Mais les Roméo et Juliette sont justement là pour rappeler que la barrière est néanmoins très réelle et très profondément intégrée dans les mentalités. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le contexte vraiment contemporain de ce début du XXIe siècle, après les guerres de la fin du XXe siècle, ces mariages mixtes, entre guillemets, sont d'autant plus rares qu'il y a eu séparation physique très large des populations. Et pour tomber amoureux de quelqu'un, bah, faut a priori le rencontrer, c'est quand même plus simple. Même si des pratiques de mariage, j'ai pas envie de dire de mariage forcé parce que c'est faux, de mariage organisé, sont toujours très importants dans toutes les communautés, aussi bien chez les catholiques que les orthodoxes que les musulmans. Pour le coup, la confession ne change rien à l'affaire. Mais ça, ça fait partie effectivement des structures d'une société patriarcale, lignagière, où il est très important, on ne donne pas sa fille ou son fils ou sa fille à n'importe qui, où cela doit s'inscrire dans une stratégie familiale. Dans le cas de pays aujourd'hui comme le Kosovo ou la Macédoine, je peux vous affirmer que 95 ou 98% des mariages sont arrangés par les familles. Mais un mariage arrangé, bien fait, c'est un mariage qui doit être acceptable pour les deux promis. Donc, on a plusieurs options, et puis ça marche ou ça ne marche pas. Ce n'est pas un mariage forcé, il n'y a pas forcément de violence dans l'histoire, mais ça fait partie du fonctionnement normal des sociétés traditionnelles, tout simplement. Alors ça, c'est, si vous voulez, c'est cet héritage ottoman qui est essentiel pour comprendre. Mon point suivant, ça va être la confrontation de cet héritage avec la modernité politique sur tout au long du XXe siècle. Alors déjà, pour commencer, il faudrait même remonter un petit peu plus loin, dès le XIXe siècle, le processus que l'on voit, peut-être Xavier, tu pourrais me remettre l'autre carte. Tout le XIXe siècle est marqué par une dislocation progressive de l'Empire ottoman qui se rétracte comme une peau de chagrin et l'émergence de nouveaux États indépendants chrétiens. Et ces États, qu'il s'agisse de la Grèce, qu'il s'agisse de la Serbie ou un petit peu plus tardivement de la Bulgarie, vont tous fonctionner de la même manière. Ils vont dire maintenant, nous sommes l'État des Grecs orthodoxes, nous sommes l'État des Serbes orthodoxes. Et les gens qui ne sont pas des Serbes orthodoxes, ou des Grecs orthodoxes, ou des Bulgares orthodoxes, quel statut ont-ils? Ils deviennent des minorités nationales. Il n'y a pas de minorité nationale s'il n'y a pas à un moment un groupe qui dit « nous sommes la majorité ». Une minorité sans majorité, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Ce groupe qui prend l'État, ou qui crée l'État, qui dit maintenant c'est nous la majorité, va considérer que sa langue, sa religion et sa vision de l'histoire sont celles de l'État, de la nation. Et les gens qui, parce qu'ils parlent une langue différente ou parce qu'ils pratiquent une religion différente, ne rentrent pas dans ce modèle, ont quelques possibilités, pas des milliers. La première possibilité, c'est de se faire tuer. Et il y a eu énormément de massacres de ce que l'on appelait les Turcs. Ça a été vrai au début de l'histoire serbe en 1804, ça a été vrai en Grèce lors de l'insurrection grecque. On pourrait multiplier les exemples. Autre possibilité, partir. La population actuelle de la Turquie, elle se compose en majorité de descendants de ce que l'on appelle les Muhajirs. Les Muhajirs, en turc, c'est les réfugiés. C'est des gens qui viennent des Balkans, du Caucase ou des autres régions de l'Empire. C'est la majorité de la population turque descend des Muhajirs parce que, dans cette logique de peau de chagrin, les réfugiés musulmans ont afflué des Balkans, du Caucase. La famille d'Atatürk venait de Macédoine. L'essentiel de l'état-major kémaliste était balkanique, hein, de toute façon. Les grandes familles turques du XXe siècle sont des familles originaires du Caucase ou des Balkans, très majoritairement. Donc, seconde possibilité de départ, la valise, l'exil. Troisième possibilité, essayer de survivre sur place, alors en jouissant soit de la protection de la majorité, enfin, jouissant d'un statut octroyé par la majorité. Alors, ça peut être pratiquer sa langue dans l'intimité familiale, pratiquer sa religion avec discrétion. Ça sera éventuellement un petit peu plus, notamment sur une période plus récente, quand il y aura des conventions internationales qui garantiront les droits des minorités. Aujourd'hui, sur le papier, vous prenez tous les pays des Balkans, que ce soit la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la Macédoine, c'est certainement les pays d'Europe où les droits des minorités sont les mieux garantis, sur le papier. Dans la pratique, la situation n'est pas forcément mauvaise, mais dans l'habitus balkanique, quiconque est en situation de minorité sait très bien que les droits dont il jouit dépendent toujours du bon vouloir de la majorité. Et que même si ces droits sont garantis par les plus belles conventions internationales, ils demeurent forcément, comment dire, toujours un petit peu fragile, parce que ce que la majorité a donné, la majorité peut le reprendre à un jour ou l'autre. Alors, donc, la modernité dans les Balkans, elle prend la forme de ces États indépendants, chrétiens, qui affirment le principe national et qui vont tous copier ou essayer de copier le modèle français, le supposé modèle français de l'État-nation, qui associe, c'est important, démocratie. Mais démocratie, quand on parle de démocratie, c'est qui est le peuple ? Comment est-ce qu'on définit le peuple ? On ne va pas rentrer dans un débat sur ces concepts politiques qui sont très compliqués, tout à fait passionnants, mais c'est ça qui se joue dans les Balkans au XIXe siècle. Et la réponse, ça va être de dire le peuple, par exemple, c'est le peuple serbe, ou bien c'est le peuple bulgare qui a les droits. Cette modernisation, cette définition d'un État national est donc intimement, structurellement liée à l'affirmation démocratique. Alors, démocratie qui va parfois être suspendue par des périodes de dictature qu'ont connu tous ces pays, plus ou moins longues, des dictatures royales, des dictatures post-royales, peu importe. Le parlementarisme existe pour le coup en Serbie ou en Roumanie dès les années 1860. Donc, ça en fait d'assez vieilles démocraties parlementaires à l'échelle du continent européen, même s'il y a eu des périodes de suspension de la vie parlementaire. Mais il y a toujours cette question nationale qui est elle-même corrélée, d'une manière qui peut paraître un petit peu surprenante quand on est français, à l'appartenance confessionnelle. Puisque, au contraire, en France, il y a dans la Révolution française, cette idée que l'identité nationale dépasserait non seulement les appartenances ethniques ou linguistiques dites autres que françaises, mais aussi dépasserait les différentes appartenances confessionnelles. Là, dans les Balkans, on est sur un modèle d'État-nation, mais qui demeure, qui s'inscrit dans des cadres, des moules profondément marqués par le confessionnalisme ottoman. Alors, quelle place pour l'islam dans tout cela ? Je vais prendre deux exemples. En 1878, la Bosnie-Herzégovine, vous voyez sa forme qui est vraiment qui illustre ce va-et-vient entre l'Empire ottoman et l'Empire, l'autre grande puissance, l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire des Habsbourg. En 1878, la Bosnie-Herzégovine est placée sous mandat austro-hongrois et elle est annexée en 1908 par l'Empire des Habsbourg. Comment est-ce que les Habsbourg vont gérer la question religieuse et la question nationale ? La revendication, la menace pour les Habsbourg, c'est beaucoup plus la menace serbe, avec son royaume de Serbie, qui est un peu sur le modèle du Piémont en Italie, veut créer un État de tous les Slaves des Balkans, ou bien c'est aussi la menace croate, où les Croates voudraient, à l'intérieur de l'Empire, avoir les mêmes droits que les Hongrois. Donc les Croates et les Serbes sont dangereux. Les catholiques et les orthodoxes sont dangereux. Du coup, l'Empire va jouer la carte des musulmans. C'est normal, divisé pour mieux régner. Et l'Empire va jouer la carte des musulmans en favorisant l'émergence d'une identité bosniaque qui est elle-même naturellement liée, fondamentalement, structurellement liée à l'identité religieuse. Autre exemple, toujours en Bosnie-Herzégovine, durant la Seconde Guerre mondiale, après l'éclatement de la première Yougoslavie royale, la question de l'islam va à nouveau se poser pour les occupants. Alors, les occupants, la Bosnie, c'est un peu compliqué. Elle est occupée justement par les nationalistes collaborateurs croates, les Ustachis, qui sont des collaborateurs du nazisme. Et puis, vu leur impéritie militaire, la Bosnie est directement occupée également par l'Allemagne nazie. Cette occupation est combattue par des résistances. Alors, des résistants monarchistes serbes, très orthodoxes, des résistants communistes, les partisans de Tito. Tito lui-même était croate. Il y a des prêtres partisans. Il y a, je dirais, une certaine osmose entre le catholicisme et la résistance communiste en Yougoslavie. En tout cas, en Bosnie-Herzégovine, les franciscains de Bosnie sont notamment très proches des partisans. Donc là encore, même stratégie, la SS va jouer la carte de l'islam et va créer une division de SS musulmane, la SS Anchar en Bosnie-Herzégovine. On voit bien comment les différentes occupations jouent avec ce critère religieux. Et puis, comment les choses se passent-elles quand finalement les partisans gagnent la guerre, libèrent et réunissent ces différentes républiques, ces différents territoires pour former une nouvelle Yougoslavie, celle de Tito. Là, on a une expérience originale et très intéressante de modernisation de l'islam dans le cadre d'un État socialiste. Alors, bon, le socialisme et la religion, ça ne fait pas toujours bon ménage, mais en réalité, ça peut, il y a toujours manière de trouver des accommodements. On sait très bien qu'en URSS, après les temps de forte répression religieuse, disons des années 30, on va trouver des modus vivendi, non seulement avec l'Église orthodoxe, mais également avec l'islam, dans les républiques d'Asie centrale ou au Tatarstan. En Yougoslavie, il n'y a jamais eu tellement de répression antireligieuse, un tout petit peu dans les toutes premières années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, mais ça s'est très vite arrêté. Par contre, le nouveau régime veut définir, veut être, comment dire, les règles du jeu par rapport aux différentes confessions. Le nouveau régime yougoslave, socialiste, se méfie un petit peu tout de même des catholiques du fait du côté multinational des catholiques. Ils ont le soutien du pape. Ils sont à la fois chez nous, mais ils ont un pied dehors, ils peuvent avoir le soutien d'une hiérarchie sur laquelle on n'a aucun contrôle. Donc les catholiques sont toujours un petit peu suspects pour cette raison-là. Les orthodoxes, c'est pire, puisque l'Église orthodoxe était très, comment dire, est restée très imperméable des partisans. Donc l'Église orthodoxe serbe est considérée comme le fourrier du nationalisme serbe dont le régime se méfie par-dessus tout. Dans le cas des musulmans, là encore, ce sont des alliés potentiels. Mais comment faire? D'une part, il faut qu'ils acceptent des règles du jeu. Les règles du jeu, ça va être, dès 1945, une modernisation, la suppression des écoles coraniques, l'interdiction de certaines pratiques, notamment des voiles intégraux qui sont interdits dans l'espace public. Il y a donc une modernisation au forceps. Dans le même temps, cet islam va accepter et va très bien collaborer avec le régime, qui va en plus, le régime yougoslave va en plus assez vite comprendre que la présence sur le sol de la Fédération de communautés musulmanes peut être un atout diplomatique. Dès les années 50, la Yougoslavie, qui a rompu avec l'URSS en 1948, la Yougoslavie va embrasser la cause des luttes de décolonisation. On va comprendre que le monde est en train, que le monde en apparence figé de la guerre froide est en réalité en train de bouger à toute vitesse. Et la Yougoslavie de Tito va soutenir la révolution, les révolutions anticoloniales partout en Asie, en Afrique, sur tous les continents. Et de ce fait, la Yougoslavie va être à l'origine du mouvement des non-alignés, avec l'Inde de Nehru, l'Égypte de Nasser et l'Indonésie de Sukarno. Mais donc avec beaucoup de pays musulmans. De ce point de vue-là, avoir des musulmans chez soi, ce n'est pas si mal en termes d'image du régime. En Bosnie-Herzégovine, on dit que Tito a construit plus de mosquées que l'Empire ottoman. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, enfin, en tout cas, les comptes, à mon avis, n'ont pas été sérieusement faits, mais c'est vrai que durant la période titiste, on va construire pas mal de mosquées dans les villages, un petit peu partout, et que l'islam aura pignon sur rue dans cette Yougoslavie socialiste, avec notamment à Sarajevo une université de théologie extrêmement prestigieuse. Vous avez bien sûr le centre de la théologie sunnite, c'est l'université d'Al-Azhar au Caire, mais l'université de Sarajevo, c'est le petit Al-Azhar européen qui va connaître un développement, un rayonnement intellectuel tout à fait considérable dans la seconde moitié du XXe siècle, dans le cadre d'un État socialiste. Alors, pour le coup, les relations, ces jeunes étudiants en théologie qui vont étudier à Sarajevo, qu'ils soient albanais, bosniaques, originaires de toute la fédération, après, où est-ce qu'ils vont étudier? Ils vont étudier, mettons, à Al-Azhar du temps de Nasser, au Caire. Du temps de Sadat, ça devient plus compliqué. En tout cas, ils ne vont jamais en Arabie saoudite, puisque l'Arabie saoudite n'est pas franchement un ami de la Yougoslavie. Ils vont étudier en Syrie, ils vont étudier en Algérie également. Ils vont étudier dans des pays musulmans proches se référant, se réclamant à des titres divers du socialisme, et proche donc de la Yougoslavie. Il y a dans les années 50, 60, 70, il y a clairement, à l'échelle mondiale, deux sociétés d'islam concurrentes qui se créent. Il y a une société d'islam centrée sur la Mecque et où le modèle wahhabite favorisé par les États-Unis va commencer à se développer. Puis il y a une autre, comment dire, une autre société mondiale d'islam qui réunit ces pays socialistes où on se méfie comme de la peste de l'Arabie saoudite et de l'impérialisme américain. Et la Yougoslavie est totalement impliquée dans cette mondialisation-là, partielle certes, mais pas négligeable, de l'islam. Cela veut dire, aujourd'hui encore, dans les communautés religieuses, dans les communautés musulmanes des Balkans, vous avez souvent un conflit de génération. Vous avez des imams qui ont 50, 60, 70 ans, qui ont été étudiés à Damas ou à Bagdad dans les années 60. Et puis vous avez des jeunes qui ont été étudiés au cours des 10, 20 dernières années à Médine. Bien évidemment, l'héritage, la vision de l'islam qu'ils auront ne sera pas la même. Le conflit entre soi-disant modérés et conservateurs, entre soi-disant intégristes, et bon, tous ces termes qu'il faut définir, qui sont complexes, c'est aussi très souvent dans les Balkans un conflit de génération qui renvoie à l'histoire différente qu'ont vécu les différentes générations de musulmans des Balkans. Alors, qu'en était-il de la pratique religieuse à l'époque yougoslave? Bien évidemment, le régime ne la favorisait pas. S'il voulait faire une carrière au parti, c'était mieux de vous proclamer athée, que vous soyez de tradition catholique, orthodoxe, juive ou musulmane. En même temps, il n'y avait pas de répression antireligieuse, donc ce qui était assez largement admis, je dirais, c'était une sorte de pratique soft avec beaucoup de pragmatisme, permettant à chacun, aussi bien orthodoxe que juif ou musulman, de se dépatouiller avec les obligations du régime et les exigences rituelles de sa religion. Les mosquées, bien sûr, étaient moins pleines qu'aujourd'hui, ça c'est une évidence. Les mosquées se sont beaucoup remplies dans la période de guerre, d'après-guerre et de transition économique. J'y reviendrai, ça sera mon dernier point. Néanmoins, il serait faux d'imaginer la Yougoslavie comme un pays où la pratique avait disparu. Ce n'est pas le cas. La pratique, elle existait. Ces communautés musulmanes de Yougoslavie, on les a largement découvertes lors de l'éclatement de la Yougoslavie et des guerres des années 1990. Avec là beaucoup, je dirais, parfois beaucoup de naïveté. On a souvent, en Europe occidentale en tout cas, voulu présenter les musulmans de Bosnie comme des musulmans, alors, modérés, grosso modo comme des bons musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que là, il y a un imaginaire occidental qui était plaqué sur des réalités différentes. Où, bien évidemment, on avait affaire à des musulmans qui, physiquement, n'avaient pas de traits, mettons, arabes, asiatiques ou africains, parce qu'ils étaient, effectivement, la plupart des musulmans en Bosnie-Herzégovine sont souvent de peau plus claire que les orthodoxes, parce que c'est des populations restées un peu plus à l'écart dans les montagnes. Souvent, les vrais musulmans en Bosnie ont les yeux bleus. Bon, ce n'est pas le cas de tous. Mais effectivement, si on pense l'islam en termes de schémas raciaux, là, ça ne marche pas, ça c'est évident. Ces musulmans avaient une pratique sociale d'un État socialiste, ce qui ne remettait pas forcément en cause la réalité de leur foi. Il y a eu, dans les mouvements de solidarité avec la Bosnie-Herzégovine, des débats parfois complètement étonnants. Des débats sur le sexe des anges, ou des débats en tout cas où on se posait la question, on se réjouissait de voir des musulmans qui buvaient de la bière, bon, de l'alcool. Et on s'étonnait qu'ils ne mangent pas de porc. Ben non, effectivement, les musulmans, même s'ils ne sont pas pratiquants, ne mangeaient pas de porc. Ça fait partie d'un habitus conservé. La pratique de boire un peu d'alcool, elle est attestée dans toutes les sociétés musulmanes qui vivent au contact de communautés non musulmanes, ce qui est le cas du Liban, ce qui est le cas de tout le Moyen-Orient. Donc on est en réalité sur des choses assez banales, assez simples, mais qui étaient faussées ou mal perçues par ce regard occidental. Le processus des guerres, on a aussi pensé qu'il allait provoquer une radicalisation. Et tout le monde s'est inquiété, a guetté l'arrivée, le changement dans l'islam des Balkans. Alors avec deux idées, l'une c'est que les violences de la guerre allaient pousser les musulmans dans la voie d'une pratique plus intense de leur religion, ce qui est partiellement attesté mais qui n'est pas du tout généralisé. Et puis l'autre source d'inquiétude, c'était l'arrivée de volontaires internationaux importants en Bosnie-Herzégovine, un modèle de l'islam différent. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu vrai. C'est un petit peu vrai en ce sens que la Bosnie-Herzégovine a été le terrain d'un djihad mondialisé après l'Afghanistan et de manière contemporaine avec la guerre civile en Algérie. On est sur la même période, de la première moitié des années 90. L'Algérie, c'est une histoire un petit peu autonome. Par contre, oui, beaucoup de gens qui ont combattu en Afghanistan sont ensuite partis se battre ou faire de l'humanitaire en Bosnie-Herzégovine, et certains d'entre eux y sont restés. La cohabitation entre ces volontaires internationaux et les populations musulmanes locales ont parfois été très compliquées. Alors, très compliquées pourquoi ? Parce que du côté des cadres militaires qui défendaient la Bosnie-Herzégovine contre les nationalistes serbes et croates, vous aviez d'un côté d'abord avant tout des cadres communistes, une armée de partisans, c'était le modèle. Donc voilà, vous aviez des gens qui arrivaient, qui avaient combattu, mettons, les soviétiques en Afghanistan et qui arrivaient et qui se retrouvaient à devoir faire front commun avec des gens se réclamant de Tito. Ce n'était pas forcément toujours compréhensible pour eux. Et puis, là où il y avait une référence musulmane chez les combattants, c'était beaucoup plus une référence derviche, une référence mystique. Je n'ai pas encore parlé de des courants mystiques derviches, mais qui ont toujours joué un rôle très important dans l'islam des Balkans. L'armée de Bosnie-Herzégovine, elle s'est construite durant la guerre entre le corps des officiers communistes restés attachés à un État multiethnique et puis la confrérie Naqshbandiya, qui est une confrérie derviche, assez rigoriste, mais qui est néanmoins qui prône une pratique mystique de l'islam. Alors la cohabitation entre communistes et Naqshbandi, elle n'est pas toujours simple elle-même, mais elle ne s'est pas trop mal passée. Par contre, pour des volontaires d'inspiration salafiste wahhabite, pour qui le communisme c'est l'ennemi, et la mystique derviche c'est presque encore pire que tout, puisque c'est une variante déformée de chiisme, les types n'étaient pas tout à fait à la fête, pas tout à fait à la noce, ils avaient du mal à trouver leur repère. Néanmoins, bien évidemment, ces volontaires internationaux, combattants ou humanitaires, ont contribué à faire évoluer l'islam de Bosnie-Herzégovine, mais ils ne l'ont pas changé radicalement. Il ne faut pas, pour le coup, il faut éviter toutes les caricatures. L'islam de Bosnie-Herzégovine ou de Yougoslavie en général avait engagé des transformations et une forme d'adaptation à une modernité socialiste, parce que l'islam, comme tout fait social, est plastique. Comme toute religion, l'islam est plastique et s'adapte au contexte dans lequel il se trouve. Dans le même temps, cet islam modernisé, socialistisé, yougoslavisé, était aussi un islam qui était en contact, qui s'inscrivait dans la communauté de l'Oumma, de la communauté des fidèles, avec des débats, des influences intellectuelles traversant l'ensemble du monde musulman. Le premier président de la Bosnie-Herzégovine indépendante, Ali Izetbegovic, s'est formé dans des courants marqués par l'héritage des frères musulmans. Après, bon, les choses ont évolué de manière un peu compliquée à l'époque yougoslave, mais bien évidemment, dans la pratique, dans la réflexion, dans la théologie, dans la spiritualité d'Aliya Izetbegovic, la marque des frères musulmans était très, très, très importante. Ce qui montre bien comment des courants transnationaux de l'islam trouvaient un écho, y compris dans un pays socialiste, dans un islam adapté à cette modernité socialiste. De ce point de vue-là, l'arrivée significative, pas massive, mais significative, de volontaires étrangers, qu'ils soient originaires du monde arabe ou d'ailleurs, des pays du Golfe arabe ou d'ailleurs, a contribué à faire évoluer cet islam, mais pas de manière si radicale qu'on a pu le penser. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Alors, vous avez, sur un plan architectural, vous avez des grandes mosquées qui ont été reconstruites après la guerre, et là, l'argent est souvent venu d'Arabie Saoudite, du Qatar, ou de ce type de pays-là. Donc, pour le coup, les standards architecturaux des nouvelles mosquées évoquent plus souvent les mosquées un peu kitsch que l'on construit aujourd'hui dans le Golfe que l'héritage architectural ottoman. Il y a eu d'ailleurs une grande bataille qui se poursuit, patrimoniale, puisque la Turquie, par le biais de fondations publiques comme la direction de la Diyanet, la direction des affaires religieuses de Turquie, ou la TICA, qui est la coopération turque, essaie de sauvegarder ce patrimoine ottoman. Et il y a souvent eu en Bosnie-Herzégovine ou au Kosovo ou en Albanie de véritables batailles entre des bailleurs de fonds, mettons saoudiens ou autres, qui voulaient reconstruire, raser une vieille mosquée, la reconstruire, et les Turcs de la TICA qui disaient non, ça fait partie du patrimoine ottoman, on va le rénover de manière, pour le coup, plus fidèle à la tradition patrimoniale du bâtiment en question. Mais derrière l'enjeu patrimonial, il y avait bien sûr un enjeu idéologique. Parce que cet islam des Balkans demeure un islam de rite hanéfite, qui est le rite de l'Empire ottoman, et demeure fondamentalement, s'inscrit toujours dans cette tradition d'un islam marqué par l'Empire, marqué aussi par les expériences socialistes du XXe siècle, et d'autres courants comme les courants dits salafistes ou arabites n'ont pas trouvé leur place. Ils existent, mais ils restent très minoritaires. Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, il y a eu une double stratégie. Il y a eu intégration de certains courants dits salafistes dans la communauté islamique. C'est notamment ce qu'a fait la politique que développait l'ancien Reich ou l'Ulema, le Reich Tserich dans les années 2000, qui a choisi. Alors, ce Reich, Afa Efendi Tserich, un personnage très complexe, qui se présentait au début des années 2000 comme le champion d'un islam européen. Et là-dessus, il a rencontré beaucoup d'échos en Europe occidentale, avec des idées un petit peu essentialistes que si l'islam est européen, il serait forcément différent d'un islam, je ne sais pas, asiatique ou africain. Bon, ce n'est pas prouvé, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce qu'on est européen qu'on va être différent de ce qui se fait ailleurs. Pour le coup, toutes les religions qu'on pratique en Europe, elles viennent à peu près toutes de la même origine, qu'est le Proche-Orient, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, ou l'islam. C'est toutes des religions qui ont été, comment dire, importées en Europe. Bon, voilà. Et après, il y a des synthèses qui se sont faites. Il n'y a pas d'identité. Le label européen ne présuppose pas une identité différente de l'islam. La carte de l'islam européen que le Reich Tserich voulait beaucoup jouer au début des années 2000, c'était une carte très politique. C'était pour essayer de s'imposer comme le porte-parole naturel de tous les musulmans d'Europe, en disant voilà, l'islam a une vieille implantation sur le continent européen, alors référence à l'Espagne, à la Sicile musulmane, et puis à cet islam ottoman des Balkans qui a pris la succession de ces communautés d'islam disparues d'Espagne ou de Sicile, mais qui permettent de dire que l'islam a toujours été présent sur le sol du continent européen, et que lui, en tant que chef de la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine, donc d'un islam autochtone en Europe, aurait une légitimité à être naturellement le porte-parole de tous les musulmans d'Europe, y compris ceux qui sont issus des communautés issues de l'immigration. Le calcul était très politique, dans le contexte du début des années 2000, où on pensait que tous les Balkans, notamment la Bosnie-Herzégovine, allaient adhérer à l'Union européenne, disons, allez, soyons pessimistes, au plus tard en 2010 ou en 2012. En tout cas, ça sera fait dans la décennie. Du coup, le Reich de Bosnie-Herzégovine se disait, mais somme toute, je vais être un des principaux personnages religieux de l'Union européenne. Son raisonnement tenait tout à fait la route. Et du coup, il avait cette idée, il y a eu des projets très avancés, d'organiser, de faire une grande université de l'islam d'Europe, etc. Bon, bien évidemment, ça n'a rien à marcher, notamment la Bosnie-Herzégovine n'est toujours pas un membre de l'Union européenne, comme vous le savez bien, et comme ses voisins du reste. On est revenu sur ces illusions d'un islam d'Europe qui ne reposait pas sur grand-chose. Et le personnage de Raïd Serj, dans le même temps, qui se présentait donc comme quelqu'un d'extrêmement modéré parce qu'européen, avait besoin, pour des stratégies de pouvoir, de jouer la carte des sélafistes sur des logiques de pouvoir interne. Donc, il a intégré une partie d'entre eux dans la communauté islamique de Bosnie. Son successeur est, pour le coup, beaucoup plus partisan du cordon sanitaire et tient les sélafistes beaucoup plus loin de la communauté islamique. Il y a donc des petites communautés sélafistes ou intégristes qui existent en Bosnie-Herzégovine, qui sont très isolées en réalité, qui forment une micro-contre-société dans les villes, dans quelques villages également. C'est finalement un phénomène plus rural qu'urbain. En Bosnie-Herzégovine, vous le savez, il y a beaucoup de villages qui ont été détruits par la guerre et qui sont aujourd'hui toujours vides de population. Donc, ce n'est pas très compliqué de partir à la campagne et de dire que là, à quelques-uns, avec quelques potes, vous allez pratiquer le véritable islam, vous faites du bio, et vous avez des petites communautés sélafistes bio qui s'installent comme ça dans des villages abandonnés de Bosnie. C'est très simple, mais je dirais que ça ne gêne pas grand monde. Alors, bien sûr, il y a à certains moments, l'attention internationale se focalise dessus. Bon, l'exemple le plus, j'ai envie de dire, rigolo, c'est en 2016, quand dans un de ces villages est apparu le drapeau de l'État islamique. Aussitôt, toutes les télévisions sont tournées sur ce malheureux village où il y a 50 habitants et 200 vaches. Et puis, le type sur la maison duquel le drapeau avait été érigé a expliqué que c'est le voisin qu'il avait mis dans le but de lui nuire. J'en sais rien. En tout cas, on n'est clairement pas sur une base active de l'État islamique ou de quoi que ce soit de ce genre. On est plus sur des communautés rurales qui veulent vivre un islam très radical dans un contexte, je dirais, d'isolement assez grand. Bien évidemment, il ne faut pas non plus, simplifier les choses. Ces communautés radicalisées, ces petites communautés radicalisées, sont aussi parties se battre, ont été des relais pour aller se battre en Syrie. Alors si on prend les chiffres, bien évidemment, la Bosnie-Herzégovine ou le Kosovo sont proportionnellement les pays d'Europe où il y a le plus de gens qui soient partis se battre sur la terre d'Esham, de la Syrie. C'est normal. La Bosnie-Herzégovine, vous avez 50% de musulmans. Au Kosovo, vous avez 85% de musulmans. Donc on arrive au pourcentage le plus élevé et pas très étonnant. Mais on reste quand même sur des choses très limitées. Dans le cas du Kosovo, c'est 300 personnes. On n'est donc pas sur un raz-de-marée. Qui sont ces gens qui sont partis? Il y a plusieurs profils. Moi, je connais plus, pour le coup, la situation au Kosovo. J'ai travaillé avec des gens revenus, qui ont été se battre en Syrie, qui sont revenus. Alors, dans le cas du Kosovo, on a déjà une géographie assez étonnante des départs.
Le Kosovo. Journaux.
Oui,
pardon.
Il faut que j'arrête un peu.
Ouais. Tu peux peut-être garder ce point-là pour le développement dans les questions, ouais, parce
oui,
qu'on est à une bonne heure d'intervention.
Et voilà, je sais que je suis bavard. en tout cas, on est sur des phénomènes très limités, avec une sociologie un petit peu particulière, qui ne veut pas dire un ralliement majeur des sociétés à ces formes radicalisées d'islam. Bien au contraire. J'ai juste quand même envie de terminer là-dessus, puisqu'il y a eu, des déclarations extrêmement maladroites il y a un peu plus d'un an du président Macron, qui dans une interview à l'hebdomadaire The Economist a parlé de la menace islamiste de Bosnie-Herzégovine. Là, Macron reprenait totalement, je dirais, des schémas orientalistes de personnes qui ne connaissent pas le terrain, qui ont été extrêmement mal perçus en Bosnie-Herzégovine. C'est aussi le moment où le président Macron s'opposait à Angela Merkel et s'opposait à l'intégration européenne et à la perspective d'intégration pour l'Albanie et pour la Macédoine. Du coup, Macron étant devenu le chef de file du courant anti-élargissement, il fallait bien sûr montrer ces gens des Balkans comme totalement étrangers à toute culture européenne, inassimilables et naturellement gangréné par l'islamisme. On est sur une posture politique qui a eu des conséquences terribles en Bosnie. J'aurais vraiment pas aimé être ambassadeur de France à cette époque-là. Vraiment pas. Mais ça, c'est de la politique politicienne. En réalité, ces sociétés des Balkans, à quoi sont-elles confrontées aujourd'hui ? Elles sont confrontées à un enlisement des perspectives européennes, à une transition néolibérale qui appauvrit ces sociétés en permanence. Les modèles de développement retenus dans les années 2000 n'ont pas marché. Donc, ce sont des pays qui sont toujours confrontés à un chômage structurel de masse, à un mauvais développement structurel et chronique qui alimente des élites corrompues, qui elles-mêmes ont tout intérêt à ce que les choses ne changent pas, à ce que ce modèle de mauvais développement se maintienne. Des élites qui se disent formellement pro-européennes, du coup, tout le monde est content à Bruxelles, et on laisse des autocraties corrompues et autoritaires diriger la Serbie ou la Macédoine ou l'Albanie. Et les sociétés, les citoyens, les habitants de ces pays-là s'en vont. Les Balkans, depuis 2014, sont confrontés à la vague d'exode la plus profonde constatée depuis le début du XXe siècle. Il y a plus de gens qui se sont en allés depuis 2014 que durant les guerres des années 90. Les gens s'en vont, partent pour faire n'importe quoi. Alors, principalement en Allemagne, on a là aussi toujours une vision faussée des choses en France, où il n'y a pas de filière d'immigration légale de travail en France. Mais l'Allemagne, elle, au contraire, a d'énormes besoins de main-d'œuvre. Donc l'Allemagne appelle ses Kosovars, ses Albanais, ses Bosniens, ses Serbes à venir travailler. C'est vrai également pour les pays scandinaves ou même pour l'Autriche. Dans le cas de la France, il y a beaucoup moins de gens qui arrivent, c'est surtout des gens du Kosovo et d'Albanie, mais qu'il faut de filières d'immigration légale, passent par les procédures de demande d'asile qui ne sont pas adaptées en réalité bien souvent à leur situation. Ces gens qui cherchent à partir, c'est grosso modo des gens qui ont fait le calcul. On a attendu durant 25 ans l'Union européenne, on a compris que l'Union européenne ne viendrait pas jusqu'à nous, ben on va aller, nous, jusqu'à l'Union européenne, quitte à y aller à pied, en partant travailler en Allemagne, en Autriche ou ailleurs, sans plus aucun espoir de revenir un jour dans le pays. C'est en cela que l'immigration actuelle est une immigration un petit peu particulière qui sort des schémas traditionnels où on pense toujours revenir au pays. Parmi eux, il y a des musulmans, pas que, mais il y a beaucoup de musulmans, il y a aussi beaucoup d'orthodoxes, de gens des autres communautés. Clairement, dans ces phénomènes sociologiques et politiques et économiques, le référent religieux est tout à fait secondaire. C'est clairement pas lui qui est déterminant. Après, il y a aussi des communautés religieuses des Balkans qui se recréent en immigration, en diaspora. Là, le Courrier des Balkans, on a consacré beaucoup de choses aux 25 ans du retour à la paix en Bosnie-Herzégovine, avec un gros colloque en ligne, bien sûr, qu'on a organisé en décembre sur les 25 ans de la paix de Dayton, mais aussi des séries de reportages, et notamment, c'est moi qui l'avais fait, des reportages sur les communautés bosniaques en Suisse. Ces communautés bosniaques de Suisse sont organisées autour de communautés religieuses. C'est dans chaque ville de Suisse, vous avez une communauté religieuse bosniaque qui organise, alors qui donne des cours, et à la fois de bosniaque et d'arabe, des cours de religion, et qui organise des activités sportives, culturelles. Il y a donc une société d'islam diasporique qui se crée en Suisse, en Allemagne ou ailleurs, ce qui est, je dirais, normal et qui est peut-être plus dynamique même que les pratiques religieuses dans les pays d'origine. Mais aujourd'hui, les Balkans sont de plus en plus des pays diasporisés, où les éléments les plus dynamiques se trouvent en dehors des frontières nationales. On en est là dans cette situation très paradoxale. Alors, est-ce qu'il est possible de tirer une conclusion sur cette expérience particulière de l'islam dans les Balkans ? Non, ça n'a pas beaucoup de sens, sauf une, c'est de bien comprendre, parce que ça c'est vrai pour l'islam dans n'importe quelle partie du monde, qu'il y a à la fois, ce que je disais, une plasticité, une capacité à s'adapter à des contextes politiques qui vont être différents, qui vont changer, et puis dans le même temps, l'islam est aussi une réalité mondiale, comme le catholicisme, mettons pour le coup, avec des courants d'idées, des tendances, des modes même, qui traverse l'ensemble du monde musulman, malgré cette adaptation en permanence à des contextes politiques et sociaux locaux. C'est ça, je crois, ce qui caractérise un phénomène, le phénomène religieux dans un monde mondialisé de manière générale, qu'il s'agisse de l'islam ou de n'importe quelle autre religion. Voilà, mais effectivement, je suis comme toujours bavard, donc je m'arrête.
Merci beaucoup, Jean-Arnold.